France Inter.
Alexis Morel, bonjour.
Bonjour Nicolas, bonjour à tous. Là au moins, vous ne pourrez pas l'oublier. Bientôt, votre main suffira pour payer vos achats dans le commerce. Ce n'est plus de la science-fiction. Des Français travaillent sur le paiement par simple reconnaissance de la paume. On vous explique dans ce journal. Le plan Vigipirate relevé à son niveau maximal en France après l'attentat de Moscou. Et des policiers ce matin devant des collèges et des lycées des Hauts-de-France. Sécurité renforcée après les menaces reçues ces derniers jours. À suivre aussi le poulet ukrainien dans le viseur des agriculteurs européens. Parole à la défense dans ce journal. Alexis Lebrun ou le droit d'aînesse au championnat de France de tennis de table. Et le dernier album de Jack Antonoff, le producteur star du moment aux États-Unis.
Au micro de Sonia De Villers, aujourd'hui François-Xavier Bellamy, vice-président du Parti Les Républicains, tête de liste aux élections européennes.
France Inter.
On célèbre, Alexis, aujourd'hui les 50 ans de la carte à puce.
Ouais, et son invention par un Français, Roland Moreno. Un demi-siècle plus tard, cette carte bancaire pourrait bien être vouée à la disparition. Il y a déjà le paiement via le téléphone ou la montre connectée, mais ce n'est rien à côté de ce qui vous attend et des possibilités offertes par la biométrie. Ou comment, bientôt, votre corps va devenir le moyen de paiement. C'est aussi fascinant qu'inquiétant. Une entreprise française, Ingenico, travaille sur une technologie qui permettra de régler ses achats grâce à la paume de la main. Ça existe déjà en Chine et aux États-Unis. Sarah Mansoura, on ne parle pas de simple empreinte digitale, hein, ça va beaucoup plus loin.
Première étape, placer sa main au-dessus d'un capteur pour enregistrer sa biométrie. C'est une lumière infrarouge qui scanne ce qu'il se passe dans la paume, explique Pierre Quentin, le directeur technique.
Ça a capté une image du schéma veineux de votre main et cette image-là, elle est immédiatement encryptée de sorte que la transformée mathématique qu'on utilise ne permet pas de revenir en arrière.
Tout sera stocké sur une base de données protégée, tout comme le nom, prénom et la carte bancaire qu'on veut y associer. Et cette empreinte veineuse est unique et 100% personnelle.
Même les jumeaux, si vous voulez, ont des schémas veineux différents.
Romain Colnay, responsable innovation chez Ingenico.
Il est vraiment unique. En gros, à partir du moment où vous avez terminé votre puberté, c'est-à-dire de grandir, le schéma ne bouge pas jusqu'à votre mort.
Il ne reste plus qu'à régler ses achats en plaçant sa paume au-dessus du terminal bancaire équipé d'un lecteur. Un moyen de payer bien plus sûr que les empreintes digitales ou la reconnaissance faciale, selon Romain Colnay.
Demain, si je vous coupe la main, vous avez plus de sang, ça ne fonctionne pas. Demain, si vous arrivez avec une photo, en fait, vous n'avez absolument pas de flux sanguin qui est débité. On ne peut pas avoir ce qui s'appelle en anglais la liveness. C'est un point extrêmement important en biométrie, mais c'est vérifier que vous êtes une personne vivante. Dans cette technologie, on a un consentement. Si vous mettez votre main, le paiement est effectué. Si vous ne la mettez pas, rien ne se passe.
L'entreprise aimerait introduire ce mode de paiement au plus vite en France et espère commencer les tests en supermarché dès la fin de l'année.
Sarah Mansoura, et face à ces innovations, la traditionnelle carte bancaire dont je vous parlais résiste tant bien que mal. Si le nombre de CB en circulation a diminué d'1% en 2022 en France, le nombre de transactions par carte physique, lui, continue d'augmenter, hein, plus de 15 milliards chaque année.
Il est 7h33 en Russie, les quatre auteurs présumés de l'attentat de Moscou, officiellement inculpés pour terrorisme.
Et placés hier soir en détention provisoire après leur comparution au tribunal, visage tuméfié, bandage à l'oreille et l'un d'eux en fauteuil roulant. Le bilan provisoire de ces attaques fait état de 137 morts, 182 blessés. Pour Washington, aucun doute, le groupe État islamique porte bien la responsabilité. Il n'y a aucune implication ukrainienne, contrairement à ce que sous-entend déjà Vladimir Poutine. Et en réaction en France, le gouvernement rehausse le plan Vigipirate à son niveau maximal. Urgence attentat. Il avait déjà été activé en octobre dernier après l'assassinat de Dominique Bernard à Arras. Les Hauts-de-France, où la reprise des cours après le week-end se fait ce matin sous surveillance policière, après les menaces reçues ces derniers jours par certains collèges et lycées de la région via leurs espaces numériques. Agathe Mahuet, un protocole de sécurité est prévu dans tous les établissements concernés.
Les collèges et lycées concernés sont ouverts aujourd'hui dans les académies de Lille et d'Amiens, mais en présence de forces de l'ordre déployées aux abords des établissements. Et à l'intérieur, les directeurs ont reçu des consignes du rectorat pour accueillir les élèves de façon sécurisée. Car le message diffusé vendredi soir et samedi matin via les espaces numériques de travail évoquait des explosions à venir ce lundi dans 122 deux établissements précisément, l'auteur se réclamant du groupe État islamique. Les plateformes numériques ont été fermées jusqu'à nouvel ordre. Une écoute psychologique est en place pour les élèves choqués. La semaine dernière déjà, un scénario similaire avait concerné une cinquantaine de collèges et lycées d'Île-de-France menacés d'attentats à l'explosif. L'enquête pour retrouver l'auteur de ces messages est en cours.
La menace terroriste toujours prégnante donc, alors que depuis un mois, la justice se penche sur un attentat perpétré il y a 6 ans, celui du marché de Noël de Strasbourg. 5 morts, 11 blessés en décembre 2018. Un procès fleuve dans une salle d'audience quasi vide, car il se tient ce procès très loin de l'Alsace, au palais de justice de Paris. C'est la règle en matière de terrorisme, mais c'est une contrainte de taille pour les parties civiles, les victimes et leurs familles, Charlotte Piret.
Régine a perdu son frère dans l'attentat de Strasbourg, alors elle a tenu à assister à l'audience. 3 jours seulement sur 5 semaines, car un procès à Paris pour elle...
Oui, je trouve que c'est beaucoup plus compliqué. Ça aurait été plus simple Strasbourg, mais ils ont expliqué que c'est tous les procès terroristes ont lieu ici.
Tout seul, de l'autre côté de l'allée, un jeune homme, lui aussi endeuillé.
J'ai demandé autour de moi qui pouvait me loger sur Paris pour pouvoir venir le plus possible. Là, les publics, bah, c'est les parties civiles, et encore, on est très peu nombreux. Mais tous les Strasbourgeois ont été blessés, et ça aurait pu intéresser un public plus large de Strasbourgeois qui a vécu l'événement sans être partie civile.
Résultat, le jeune homme en garde un sentiment.
Bah, le même sentiment qu'on a vécu après l'attentat délaissé, où on n'a pas senti beaucoup d'aide autour de nous après l'attentat, et là, on le revit encore pendant le procès.
Un risque bien identifié par Arnaud Friedrich, avocat Strasbourg. Bourgeois d'une quinzaine de parties civiles.
Le risque, c'est l'exclusion. Le risque, c'est de ne pas être partie au procès pénal en tant que victime, mais partie prenante.
Alors l'avocat envoie des comptes rendus quotidiens à ses clients. D'autres victimes s'informent entre elles par groupe WhatsApp, à défaut de pouvoir être présentes dans la salle d'audience.
Hubert Falco de retour devant la justice aujourd'hui, l'ex-maire de Toulon rejugé en appel dans une affaire qui lui a fait perdre tous ses mandats il y a un an, après une condamnation à 5 ans d'inéligibilité pour avoir bénéficié de repas et de pressing aux frais du conseil départemental alors qu'il n'en était plus le président. Les agriculteurs de la FNSEA sont eux à nouveau conviés à Matignon pour une nouvelle rencontre, on ne les compte plus, avec Gabriel Attal. À la veille de son congrès annuel, le premier syndicat agricole demande au chef du gouvernement d'accélérer la mise en œuvre des promesses. Parmi leurs préoccupations aussi, la concurrence des produits agricoles ukrainiens exemptés de droits de douane depuis le début de la guerre. Les Européens veulent plafonner les importations de céréales, mais aussi de volailles. Le poulet ukrainien devenu la cible. Ce que ne comprennent pas les éleveurs que vous avez rencontrés, Camille Manière, dans l'ouest de l'Ukraine.
Chez Oular, on cultive 7000 hectares de terre. On abat 6000 poulets à l'heure. Avant l'invasion russe, l'entreprise exportait principalement vers l'Afrique, le Moyen-Orient, l'Asie du Sud-Est, mais la guerre a coupé la route vers ces marchés. Alors l'Ouest, l'Europe, c'est devenu la seule issue pour tenter de compenser ces pertes, explique le directeur des opérations Bogdan Pupa.
On a perdu beaucoup de débouchés sur le marché intérieur avec les territoires occupés et les millions de gens qui ont émigré. Donc le marché européen est devenu vital pour nous.
Alors quand le directeur commercial Igor Svistoun entend dire que l'Ukraine déstabilise ce marché européen en l'inondant de produits de moins bonne qualité, il y voit une injustice pour son pays en guerre.
On travaille selon les mêmes normes et au même prix que les Européens. Sauf que nous, en plus, à cause de la guerre, nous n'avons plus d'aide publique. On n'a plus accès à des taux de crédit intéressants. On manque de main-d'œuvre à cause de la mobilisation et de l'émigration. On trouve ça injuste d'être pointé du doigt.
Quant aux mobilisations d'agriculteurs européens qui ont fait tache d'huile ces dernières semaines, pour Igor et Bogdan, c'est clairement le fruit d'une campagne de désinformation anti-Ukraine menée en sous-main par la Russie.
Camille Magnard, France Inter en Ukraine. Au Sénégal, pas de résultat officiel avant plusieurs jours après le premier tour de la présidentielle hier, mais les premières tendances des médias donnent l'avantage à l'opposant anti-système Bassirou Diomaye Faye. En face, autour du candidat du pouvoir Amadou Ba, on assure tout de même qu'un second tour sera nécessaire pour les départager. C'est aujourd'hui la date limite pour Donald Trump. Il doit d'ici minuit prouver à la justice américaine qu'il dispose bien d'un demi-milliard de dollars pour payer ses amendes pour fraude financière. Sinon, il risque la saisie d'une partie de son patrimoine.
Il est 7h39, l'un a bondi de joie quand l'autre s'est mis à pleurer.
Les frères Lebrun ne se sont pas fait de cadeau, oui, en finale des championnats de France de tennis de table devant leur public chez eux à Montpellier. Match d'anthologie hier soir remporté par l'aîné Alexis pour la troisième année d'affilée. Il a battu son petit frère Félix, pourtant bien mieux classé, cinquième mondial. Parole au vainqueur.
Un truc de fou. Je pense qu'on a vécu un moment extraordinaire. On va s'en souvenir longtemps. Et j'ai réussi à lutter pour gagner ce match. C'est incroyable. C'est sûr que le niveau en France, il augmente vachement. Là, on a une équipe de France superbe. Tous les matchs du vendredi au dimanche, c'était exceptionnel. Donc, ouais, c'est un bel avant-goût de jouer comme ça à la maison devant tout le monde. On a vécu des belles émotions et je pense que ça sera encore plus fort cet été.
Ouais, de bon augure avant les Jeux. Chez les filles aussi, avec là aussi une histoire de famille, puisque Camille Lutz l'a emporté face à sa petite sœur Charlotte. Lui ne collectionne pas les médailles, mais plutôt les Grammys, récompense de la musique aux États-Unis. Jack Antonoff est le producteur star du moment outre-Atlantique. Il a produit notamment le dernier album de Taylor Swift. Mais il reprend lui-même le chemin des studios aussi avec son groupe Bleachers, ce qui donne un nouvel album convaincant, Mathieu Culeron.
Producteur puissant et omniprésent, Jack Antonoff trouve le temps de sortir des albums avec son groupe Bleachers. Et la plupart du temps, la naissance de ces albums voit le jour dans un total chaos. Jack Antonoff.
Yeah, it's like I'm always messing around. But then sometimes I start.
Je suis toujours en train de faire n'importe quoi et parfois ça donne des choses intéressantes et c'est dans ces moments que ça me motive et que je compose des trucs qui me font vibrer et à la fin de ce processus, je vois se former l'album.
Présente sur ce dernier album de Bleachers, Lana Del Rey co-signe un morceau. Jack Antonoff a produit ses derniers albums et il était normal qu'elle participe à son nouveau disque sans rien préméditer.
We wrote this song.
On a fait cette chanson en direct et on l'a enregistrée dans la foulée. Ça ressemblait à une chanson de Bleachers et c'était évident. C'est arrivé comme ça en déconnant.
Bleachers, un album d'un groupe méconnu fait par un producteur star, une plongée dans l'univers d'un surdoué responsable d'une grande partie du son de la pop du 21e siècle.
Pas de date sur scène pour l'instant. En revanche, le son de Jack Antonoff, vous pourrez l'apprécier lors du concert de Lana Del Rey en août prochain à Rock en Seine. Enfin, pour les chanceux qui ont leur ticket, parce que c'est complet.
Merci Alexis Morel. À suivre, Yael Gauze, Dominique Seux.